Radio Prague, les informations.
Le gouvernement tchèque prévoit un plan de relance de 2,5 milliards d'euros. Le Premier ministre Topolánek annonce que le déficit public pourrait dépasser les 3% du produit intérieur brut. Et puis les ministres Bruno Le Maire et Patrick Devedjian, les ministres français, seront à Prague ce mardi. Prague s'apprête à mettre en œuvre un plan de relance de 73 milliards de couronnes tchèques, environ 2,5 milliards d'euros. C'est ce qu'a déclaré lundi à l'agence Reuters une source proche du ministère des Finances. Très dépendant de ses exportations, comme un certain nombre d'économies d'Europe centrale, la République tchèque a vu les chiffres de sa production et de sa croissance plonger ces derniers mois, tandis que le chômage continue de grimper, principalement en raison de la chute de la demande en provenance de la zone euro. Ce plan de relance a été discuté lundi en Conseil des ministres. Il prévoit notamment 40 milliards de couronnes de réduction d'impôts et sa valeur représente près de 1,9% du PIB tchèque. Et justement, le Premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, a déclaré que le déficit public dépasserait la limite de 3% du PIB assigné aux pays de la zone euro, et ce, en raison des mesures adoptées face à la crise. C'est un gros problème pour un pays qui veut rejoindre l'euro, a déclaré le Premier ministre à la télévision slovaque dimanche dernier. La présidence tchèque, représentée par le vice-premier ministre chargé des affaires européennes Alexander Vondra, a rencontré le ministre irlandais des affaires étrangères, M. Martin, à Cork, en Irlande. Les discussions ont porté sur le traité de Lisbonne. Aucune pression ne sera tolérée pour la ratification de ce traité en Irlande ou en République tchèque. C'est ce qu'a déclaré Alexander Vondra après sa visite. La mairie du 3e arrondissement de Plzeň a interdit lundi un nouveau rassemblement de l'extrême droite. La manifestation, prévue le 21 février prochain, était organisée par Tomáš Babka pour protester contre, je cite, « le sionisme et l'influence juive dans la société ». Fin de citation. Selon la police, Tomáš Babka est un des représentants des nationalistes autonomes de la région de Plzeň. La municipalité a interdit ce rassemblement en raison de l'identité de l'organisateur et de l'intitulé de la manifestation. Le vice-premier ministre tchèque Alexander Vondra recevra mardi à Prague le secrétaire d'État français aux affaires européennes Bruno Le Maire et le ministre en charge de la relance Patrick Devedjian. Au menu des discussions, la situation économique actuelle de l'Union européenne et notamment les questions liées à l'industrie automobile, questions qui ont provoqué quelques tensions après les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy sur de possibles relocalisations. La délégation française s'est déjà rendue à Bruxelles et à Londres. Après Prague, Berlin et Madrid devraient être les prochaines destinations. Les représentants de l'association Roma Realia ont écrit une lettre au nouveau président américain pour se plaindre du développement du nationalisme tchèque et du dénigrement de l'Holocauste Rome en République tchèque, notamment parce qu'une porcherie industrielle, vous le savez, est toujours sur l'emplacement d'un camp où étaient internés les Roms pendant la guerre. La lettre a été remise à la chargée d'affaires des États-Unis à Prague, Mary Thompson-Jones. Un mot sur la météo pour finir, une météo maussade, avec de fortes chutes de neige et des températures autour de 0 degré. C'était les informations présentées par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour, bienvenue dans cette première émission de la semaine. Il y a un an, Václav Klaus était réélu à la tête de l'État pour un deuxième mandat. Nous tenterons un bref bilan de cette année écoulée dans un contexte où, vous le savez, la République tchèque assume la présidence de l'Union européenne. L'explorateur tchèque Miroslav Zygmunt souffle ses 90 bougies. Jarka Gisubelova nous rappellera le destin de cet homme et de son compagnon de route Jiří Hanzelka. La semaine dernière, Alena Gebertová s'est rendue à Lediece, près de Prague, au vernissage d'une exposition de 40 illustrateurs de livres pour enfants de Wallonie-Bruxelles. Entretien avec un des illustrateurs dans quelques minutes. Bonne écoute de ce programme. Alors que la République tchèque préside l'Union européenne, tentons un bref bilan de cette année du deuxième mandat présidentiel de Václav Klaus, réélu il y a un an au cours d'un scrutin serré et à la suite d'une élection plus que mouvementée. Faire cavalier seul ne semble pas être quelque chose qui dérange Václav Klaus. D'autres que lui auraient pu conclure qu'une réélection de justesse était une invitation à la réserve. Pourtant, il semble bien que depuis un an, ce deuxième mandat soit pour lui l'occasion de ne plus prendre de pincettes. Et ce, en dépit du fait que le déroulement déroulement même de l'élection ait été scandé par menaces et intimidations, absence de députés, autant d'événements qui ont jeté le discrédit sur un scrutin considéré par beaucoup comme une farce. La place réservée au président de la République dans la Constitution tchèque est limitée. Élu au suffrage indirect par les deux chambres, il n'a officiellement qu'un rôle essentiellement représentatif. Mais Václav Klaus est un bon client des médias et les événements de l'année 2008 lui ont offert une tribune inespérée, à commencer par la présidence tournante de l'Union européenne que la République tchèque assume depuis le début du mois de janvier de cette année. On savait Václav Klaus opposé à une certaine idée de l'Union européenne qu'il a plusieurs fois comparée au régime soviétique. C'est en eurosceptique décomplexé qu'il a rencontré en novembre 2008 des clans Ganley, fer de lance du non irlandais au traité de Lisbonne. Début janvier, Peter Mach, un proche de Václav Klaus, a fondé un parti dont l'opposition au traité est le cheval de bataille. Václav Klaus refuse l'idée d'un réchauffement climatique, il a même commis un ouvrage dans ce sens. Il a critiqué le gouvernement, dont le courant majoritaire est issu du parti qu'il a fondé pour avoir reconnu l'indépendance du Kosovo. Alors Václav Klaus se dérange, même au sein du parti de centre-droit ODS, et ce fossé qui s'est creusé l'a amené en décembre dernier à renoncer à son poste de président d'honneur. Sur cette dissidence assumée et revendiquée de Václav Klaus, on écoute Jaroslav Plesso, rédacteur en chef adjoint au quotidien Lidové noviny.
Il a beaucoup de problèmes sur la scène internationale, mais je pense que c'est surtout sa faute. Il s'est laissé manœuvrer et enfermer dans le rôle de cet écologiste excentrique. Je pense que c'est ça qui lui a ôté une bonne partie du crédit qu'il pouvait avoir au niveau international. Il est dans une logique de rupture, et je pense que ce processus va continuer, et que dans les temps qui viennent, il ne pourra pas s'empêcher de faire des choses qu'il n'aurait jamais osé faire lors de son premier mandat.
Le 19 février, Václav Klaus sera donc l'objet de toutes les attentions puisqu'il doit prononcer un discours à Bruxelles au cours de la séance plénière du Parlement européen. Une intervention qui fera figure de grand oral pour le chef de l'État tchèque. Miroslav Sigmund, qui formait avec Jiří Hanzelka, déjà décédé, le légendaire duo d'explorateurs tchèques ayant parcouru le monde au volant des fameuses automobiles Tatra, a fêté le 14 février ses 90 ans. Jarka Gisubelova.
En gardant tout son élan, une excellente forme physique, Miroslav Sigmund souhaite encore partir en expédition. Avec son compagnon de route inséparable, Jiří Hanzelka, décédé en 2003, il a visité 83 pays du monde et passé 10 ans sur la route, ou plutôt sur les roues, des fameuses automobiles Tatra 8 et 805 qui les ont rendus célèbres. Au cours de leurs expéditions, ils ont tourné près de 150 courts-métrages et 4 longs-métrages et pris pas moins de 120 000 photos. Leur aventure est décrite dans une vingtaine de récits de voyage, une série de reportages tapés à la machine, ensuite radiodiffusés, qu'ils envoyaient continuellement à Prague par avion. Pourtant, il y a eu une interruption dans leur carrière. Pendant plus de 20 ans, Hanzelka et Sigmund ont été interdits de publication et ne pouvaient pas sortir de leur patrie. Si donc leur première expédition en Afrique et en Amérique latine, entreprise de 1947 à 1950, a été richement documentée, la seconde réalisée entre 1959 et 1964 n'a été décrite que presque un demi-siècle plus tard. En 2008 seulement paraît le récit du voyage intitulé « Piège à l'équateur, Indonésie mystérieuse ». Pourquoi si tard ?
Les événements connus comme l'aide fraternelle des armées soviétiques, nous les avons condamnés, moi et Jiří Hanzelka. Et ainsi, lorsque nous avons commencé à écrire en 1971 la suite du récit sur notre expédition à Ceylan, il n'y avait aucun espoir de pouvoir le terminer et nous avons été obligés d'y renoncer.
De la seconde expédition amenant les deux explorateurs en Asie, en Indonésie, en Océanie, au Japon et en Russie, Miroslav Sigmund raconte.
Pendant 5 ans et demi, nous avons parcouru l'Asie, depuis la pointe la plus au sud de Ceylan jusqu'à l'océan glacial arctique. Nous sommes allés loin au-delà du pôle Nord. On nous a permis de regarder la Terre d'en haut, à bord d'un hélicoptère, dans des régions où il ne serait pas possible de rouler avec notre Tatra. De Ceylan, nous sommes allés à Sumatra, alors en pleine guerre civile, jusqu'à l'île de Nias, où nous étions les premiers reporters étrangers après ceux du National Geographic.
La question de savoir s'il y a des pays qu'il n'a pas visités et s'il voudrait partir encore en expédition, Miroslav Zikmund n'hésite pas à répondre.
Naturellement, je voudrais bien. La Chine n'a finalement pas figuré dans notre itinéraire lors de notre seconde expédition. Au moment de notre arrivée à la frontière chinoise, lorsque nous avons voulu demander les visas d'entrée, un conflit a éclaté entre Pékin et Moscou, et donc aussi par la suite entre Pékin et Prague, et les Chinois ne nous ont pas laissé entrer.
La parution du livre « Piège à l'équateur, Indonésie mystérieuse » à la fin de l'année écoulée a été un premier cadeau offert à Miroslav Zikmund pour fêter ses 90 ans. Une exposition qui sera inaugurée au musée Naprstek à Prague fera honneur au légendaire explorateur.
Rasée en 1942 par les nazis, la commune de Lidice, située à une vingtaine de kilomètres de Prague, est devenue le synonyme d'une des grandes tragédies de la Deuxième Guerre mondiale. Parfaitement rénovée et agrandie, sa vie au quotidien ne semble aujourd'hui différer en rien de celle d'autres agglomérations du pays. Sa proximité de Prague, l'existence d'une belle galerie d'exposition et le goût de l'initiative de ses responsables donnent souvent lieu à l'organisation d'intéressants événements culturels. Alena Gebertova s'est rendue la semaine dernière à Lidice pour assister au vernissage d'une exposition de 40 illustrateurs de livres pour enfants de Wallonie-Bruxelles intitulée « Quand la lecture est pleine de couleurs ». L'illustrateur Benoît Jacques est venu pour l'occasion ainsi que pour organiser des ateliers. On l'écoute.
Alors d'abord, il faut savoir que je vais rencontrer à la fois des ateliers où les participants sont des enfants et d'autres ateliers, enfin un autre atelier où les participants sont des adultes. Je ne vais pas fonctionner de la même manière pour les uns et les autres. Disons que pour les enfants, ce que j'ai envie de faire, c'est leur donner l'occasion d'approcher ma vision du dessin, c'est-à-dire de leur faire comprendre que d'abord tout le monde sait dessiner, que ce sont des idées reçues que d'imaginer que certains dessineraient mieux que d'autres. À la base, les enfants aiment, ont plaisir à dessiner, et c'est ce plaisir qu'il faut veiller à garder vivant en eux et ne pas le détruire en leur disant « ben toi tu dessines bien et toi tu dessines mal ». Donc j'ai envie de les décomplexer par rapport à l'approche du dessin, si vous voulez. Moi, je suis fasciné par les traditions de l'image qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et bon, manifestement, ici en République tchèque, il y a une vraie tradition de l'image. Hein. Il y a un goût pour l'image très prononcé.
Quand vous étiez enfant, quel était votre livre préféré ?
Alors, il y a un livre que j'ai absolument adoré étant enfant, c'est « La fameuse invasion des ours en Sicile » de Dino Buzzati, qui était justement un livre où l'auteur faisait à la fois le texte et les images, et c'est un texte absolument magnifique, c'est une histoire superbe, et ce sont des images très envoûtantes, vous savez, il y a des images qu'on voit étant enfant et qui nous marquent très profondément. Et bon, ben là, c'est un bon exemple de ça, les images de ce livre sont tout à fait étonnantes.
Quelles sont les qualités que doit posséder, d'après vous, un bon illustrateur ?
Alors, je pense que la première des qualités, c'est de développer un type d'imagerie qui lui appartienne vraiment, c'est-à-dire qu'il soit vraiment à l'image de qui il est. Et on met parfois des années à développer ça, puisque quand on est jeune, on est obligatoirement influencé par tout un tas de gens. Et on met beaucoup de temps, et ça demande énormément de travail, de développer cette espèce de vocabulaire graphique dont on est le seul possesseur au bout d'un temps. Donc ça me semble très important. Et l'autre chose qui me semble essentielle, c'est d'avoir un type de vocabulaire, un type d'image qui reste néanmoins accessible, pour que il puisse être simplement compris par les autres. Puisque l'intérêt de faire des choses, de faire des images ou de faire des histoires, c'est qu'à un moment donné, ces histoires rencontrent un public.
C'était l'illustrateur Benoît Jacques. Et après ces faits et événements, on passe tout de suite à la rubrique sportive.
Sport.
sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au sommaire de laquelle figurent ski alpin, combiné nordique, patinage de vitesse et tennis. En ski alpin tout d'abord, Šárka Záhrobská n'a pas conservé son titre de championne du monde de slalom. À Val d'Isère, la Tchèque n'a toutefois pas déçu puisqu'elle a décroché la médaille d'argent. En combiné nordique, troisième à Kligenthal, Pavel Hurravi est monté sur le podium d'une épreuve de Coupe du Monde pour la deuxième fois de la saison. En patinage de vitesse, Martina Sablikova a remporté le classement général de la Coupe du Monde sur longue distance pour la troisième fois de sa carrière. Et puis en tennis, Radek Štěpánek a enlevé aux États-Unis son deuxième tournoi depuis le début de saison. Avant l'ouverture, mercredi à Liberec, en Bohême du Nord, des championnats du monde de ski nordique, plus grands événements sportifs jamais organisés en République tchèque, l'attention du public tchèque était tournée vers Val d'Isère et les mondiaux de ski alpin. Dans les Alpes françaises, samedi, Šárka Záhrobská n'a certes pas conservé son titre de championne du monde de slalom décroché en 2007 en Suède, mais la Tchèque est néanmoins montée sur la deuxième marche du podium et a ainsi offert à son pays sa seule et unique médaille. Šárka Záhrobská a finalement terminé avec 77 centièmes de seconde de retard sur la meilleure slalomeuse de la saison, l'Allemande Maria Reich, auteure d'une seconde manche magistrale. Troisième à 1 seconde et 9 centièmes, la Finlandaise Tanja Puttiainen complète le podium. Quatrième à l'issue de la première manche, Šárka Záhrobská pouvait s'estimer heureuse du déroulement de la course.
Il y a certaines courses où je suis nerveuse et d'autres où je le suis moins. Cette fois, il y avait bien entendu un peu de nervosité, mais je crois que cela ne m'a pas empêché de m'exprimer pleinement. Il y avait aussi un peu de respect par rapport à cette piste de Belvard qui est assez difficile, même si je ne suis pas entièrement satisfaite car j'ai commis beaucoup de fautes et je n'avais pas une très bonne sensation en bas de la piste. Je pense que je n'ai pas si mal réussi ma seconde manche, dont le tracé n'était pas facile.
Très sélectif, le parcours de la seconde manche a fait la part belle aux techniciennes. Piégées, les trois premières de la première manche sont ainsi parties à la faute. À l'arrivée, Šárka Záhrobská pouvait donc remercier son entraîneur, qui est également son père, puisque c'est lui qui était chargé du tracé de la seconde manche. Une raison qui explique pourquoi, à l'issue de la course, Petr Záhrobský affirmait ne pas avoir douté du bon classement final de sa fille.
J'étais sûr à 95% que ce serait une médaille. Je savais que parmi les premières concurrentes au classement, il y a des filles qui sont plus fragiles nerveusement que Šárka. Bien qu'il comportait 8 portes de plus, le tracé de la deuxième manche était beaucoup plus rapide que celui de la première. Je connais toutes ces skieuses comme mes chaussures et c'est pourquoi j'étais convaincu que Šárka finirait sur le podium.
Grâce à ce titre de vice-championne du monde, Šárka Záhrobská a complété à 24 ans sa collection de médailles aux championnats du monde. Après le bronze en 2005 et l'or en 2007, la Tchèque possède désormais l'argent du slalom et a ainsi prouvé qu'elle était une skieuse des grands rendez-vous. Chez les hommes, un autre Tchèque s'est également illustré lors de ces championnats du monde puisque Krzysztof Krysel s'est classé 8e du slalom remporté dimanche par l'Autrichien Manfred Pranger, soit le meilleur résultat jamais signé par un slalomeur tchèque. En combiné nordique, Pavel Hurravi s'est classé 3e de l'épreuve de Coupe du Monde disputée samedi et dimanche à Kligenthal en Allemagne. Premier après l'épreuve de saut à ski, le Tchèque a manqué de peu la victoire finale à l'arrivée du 10 km de ski de fond. En tête du sprint final à 200 mètres de l'arrivée, Pavel Hurravi a été devancé sur la ligne d'arrivée de 1 seconde et 7 dixièmes par le vainqueur américain Bill Demong et le français Jason Lemmy Chapuis 2e. Au terme des deux épreuves, le Tchèque estimait que son saut, long de 142 mètres, avait constitué la base de ce qui constitue son deuxième podium de la saison en Coupe du Monde.
C'est vrai que c'était un saut fantastique et j'ai battu mon record de 10 mètres. Cela ne m'était encore jamais arrivé de me retrouver en tête d'un combiné après l'épreuve de saut et de partir en première position de l'épreuve de ski de fond. Je peux simplement regretter d'avoir manqué un peu de force à l'arrivée et malgré ça, je reste quand même très satisfait de ce résultat.
Et un résultat qui fait de Pavel Hurravi un autre adepte tchèque à une médaille lors des championnats du monde de ski nordique de Liberec. En patinage de vitesse, en s'adjugeant samedi le 5000 mètres d'Herenveen aux Pays-Bas, Martina Sablikova est assurée de remporter pour la troisième fois consécutive le classement général de la Coupe du Monde des longues distances 3000 et 5000 mètres. Avant la finale de la Coupe du Monde à Salt Lake City, la Tchèque possède en effet 190 points de plus que Christina Groves, une avance suffisante pour ne plus être dépassée par la Canadienne. Après son premier titre de championne du monde toute distance, décroché la semaine dernière, Martina Sablikova avait donc toutes les raisons d'être satisfaite.
Il est certain que je préfère être assurée du titre avant la dernière course. Pour autant, je n'ai pas fait une très bonne course aujourd'hui. Je me sentais très fatiguée et j'ai fait beaucoup de petites erreurs techniques. Mais l'essentiel reste la première place et la confirmation de ma victoire en Coupe du Monde.
Et puis on termine avec un mot de tennis et la victoire de Radek Štěpánek au tournoi de San José aux États-Unis. Après s'être défait de la tête de série numéro 1, Andy Roddick, en demi-finale, le Tchèque a battu en finale un autre Américain, Marty Fish, en 3-7, 3-6, 6-4, 6-2. Après son succès à Brisbane en janvier, Radek Štěpánek a ainsi remporté son deuxième titre depuis le début de saison et le quatrième de sa carrière sur le circuit professionnel.
Voilà, et après le sport, on continue tout de suite avec la rubrique musicale du début de la semaine.
Un peu de musique quand même.
Les Celtes ont toujours été de grands voyageurs. D'ailleurs, des traces de leur présence sur ce qui deviendrait un jour la République tchèque ont été retrouvées par les archéologues. Aujourd'hui encore, un Breton peut renoncer à son cher océan pour venir s'établir dans les terres intérieures de l'Europe. C'est ce qu'a fait Dewi Pajo de Lorient au milieu des années 90 en s'installant à Prague. C'est par la musique que ce clarinettiste entretient le lien avec ses origines. En 1999, il fonde Bran, un groupe tchéco-breton qui donne à entendre compositions originales et reprises d'air traditionnelles. En breton, Bran signifie le corbeau. Sur son site internet, Dewi Pajo explique que dans les légendes celtiques, cet oiseau est un messager, une façon de jeter un pont entre Bretagne et pays tchèque.
Le grand coureur est un navire de malheur quand il se met en croisière pour aller chasser l'anglais devant la mer et la guerre tourne contre le français. Dans les gars, gué, gué, dans les gars, gué, il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bâbord à mur, naviguant comme un poisson, un graton sur la mâture. Voilà le corsaire en ponton. Dans les gars, gué, gué, dans les gars, gué, il nous fallut remater et diablement bourlinguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord un navire d'apparence amantelait de sa bord. Dans les gars, gué, gué, dans les gars, gué, c'était un anglais vraiment à double rangée de temps. Un marchand de mort subite, mais le breton n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangeons à l'honneur. Dans les gars, gué, gué, dans les gars, cette boule siffle sur nous lui rendons coucou, tandis que la barbe on fume à nos braves matelots. Voilà, pris dans la brume, nous échappons aussitôt. Dans les gars, gué, gué, dans les gars, gué, nos prises au bout de 6 mois ont pu se monter à 3.
Fin 2008, Bran a sorti son troisième album, intitulé The Coast of Bohemia, la côte de Bohème. Il réunit une quinzaine de titres, en français et en breton, dont un morceau qui porte le nom de la rivière qui traverse Prague, en allemand la Moldau. Et Bran donne évidemment des concerts. Le prochain est prévu pour le 25 février à Pelzeign. Et pour les autres dates du groupe et d'autres renseignements sur sa musique, c'est sur le www.bran.eu. Fin des émissions en langue française de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.